De retour sur les ondes de Canal Sud 92.2. Jida, tout à l'heure, a commencé à évoquer le rôle des parents, la difficulté aussi. Donc, Kizar Attitude propose un soutien à la parentalité en permettant une reprise de confiance des parents grâce à l'expression et les échanges sur leur rôle. Je voulais vous faire écouter un son fait de Fatima Wasak, qui a écrit un livre qui s'appelle « La puissance des mères ». Elle parle de ce paradoxe et aussi du fait qu'on retire aux enfants le droit d'être des enfants. Je vous fais écouter, je vous fais réagir juste après.
Vivre tranquille, c'est tout.
Donc tu es d'une famille arabe, musulmane, tu vis en quartier populaire, etc. Mmh. De quoi tu as peur exactement à ce moment-là? Est-ce que c'est plutôt à l'école où tu te dis qu'ils vont être exclus de cours plus facilement, tes enfants, ou qu'ils vont être rabattus vers des métiers précaires? Ou est-ce que c'est plutôt par rapport aux forces de l'ordre, par exemple, et que bah, voilà, tous les soirs, tu demandes s'ils vont rentrer, si bah, tu peux avoir des enfants qui sont mis en garde à vue, humiliés, insultés, éborgnés, parfois tués avec Adama Traoré ou plein d'autres?
Bah, tu vois, c'est pas plutôt ou plutôt, en fait, c'est un système. Et ce système, donc, qu'on peut qualifier d'oppression, de domination, d'exploitation, en fait, il est dans le détail. Mais il est partout. Tu vois, il ne se traduit pas que par quelque chose de spectaculaire, par exemple, les violences policières. Bah, tu parlais d'Adama Traoré, donc mort entre les mains de la police, sous le poids de 3 gendarmes. Ouais. Là, on a tout de suite quelque chose de dramatique et de. Oui, j'allais dire de spectaculaire. Oui. Et effectivement, j'en parle dans mon livre. Il y a des enfants descendants de l'immigration postcoloniale. Je parle par exemple de la petite Malika Yezid, 8 ans, qui est morte entre les mains des gendarmes dans les années 70 à Fresnes, à la Cité des Groux. Bon, là, je parle de désenfantisation. C'est-à-dire que là, il y a tout à coup le rapport de l'institution, en l'occurrence les forces de l'ordre, donc l'État, la main armée de l'État, qui a un rapport à ces enfants-là, où on considère que ces enfants ne sont pas des enfants et que ce sont des menaces en puissance, en fait. Donc, ce sont des Arabes. Voilà. Je dis Malika Yezid, ce n'est pas une enfant, c'est une Arabe. Tu vois, l'action de la crèche, par exemple, effectivement, de la langue, le fait de dire à un parent ne parlez pas votre langue maternelle parce que ça pourrait, bon, évidemment, pas n'importe quelle langue maternelle, c'est pas l'allemand, c'est pas l'anglais, évidemment, c'est l'arabe, le wolof. Évidemment, ce sont les langues de l'immigration en fait qu'on stigmatise. Mais de dire à ce parent ne parlez pas votre langue maternelle parce que ça pourrait causer du retard scolaire, mental à vos enfants, tu vois, c'est des petites choses.
Mais c'est toutes ces petites. Tu dis pas qu'il y a du racisme en creux
absolument,
dans ces endroits-là.
Tu t'appelles pas ça racisme structurel, tu vois. Ouais. Quand on parle de racisme structurel, justement, on a l'impression que c'est un gros truc, une machine qui arrive et qui dit les noirs, les arabes d'un côté, les blancs de l'autre. Mais c'est jamais comme, enfin, c'est rarement comme ça, tu vois. Et donc, c'est toutes ces petites choses-là, en fait, qui font système. Et c'est contre ça qu'on se bat. Donc, tu vois, il y a pas de hiérarchie entre des causes plus importantes ou plus nobles et des choses plus anodines. C'est vraiment, il faut se battre contre tout ce qui participe à réduire le champ des possibles de nos enfants, tout ce qui participe à leur enlever leurs rêves, en fait, leurs ambitions, leur curiosité, leur joie. Voilà. Et c'est vraiment des choses, ça peut être des choses très, très anodines.
Moi, je suis assez d'accord avec elle. Du coup, les enfants dans les quartiers populaires et prioritaires, on les grandit très vite. Moi, je viens de milieu rural. Et ce qui m'a frappée lorsque je suis arrivée à travailler dans les quartiers populaires, c'est ça. C'est que les enfants, on les pointe très vite du doigt, on les traite très très vite comme des adultes. Et aujourd'hui, voilà, on leur coupe leur part de leur innocence et leur naïveté quelque part. C'est qu'on voit très bien que les enfants de quartier sont très très matures comparés à des enfants peut-être de centre-ville ou de milieu rural. Mais c'est parce qu'on les a coupés de leur innocence. Et c'est très juste ce que disait Fatima Wasak. Notamment, ça m'a fait tilt dans ma vie personnelle par rapport à la langue maternelle. La petite anecdote, c'est que ma mère, elle l'a vécu. Ma grande sœur, donc l'aînée, elle a commencé à lui parler l'arabe. Et puis, on lui a vite interdit à l'école de parler à sa fille en arabe, lui disant qu'elle avait des difficultés scolaires de fait qu'à la maison, on parlait arabe. Alors qu'en fait, pas du tout. C'était juste qu'elle était dyslexique. Et donc c'est une pathologie et ça n'avait rien à voir avec la langue dont on lui parlait. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que nos parents, ils ont suivi, ils ont écouté parce qu'ils se sont dit, on doit faire comme ça. Et avec nous, ils ont fait la même chose. Et moi, aujourd'hui, je suis maman et je parle qu'en français avec mes enfants. Et je sais très bien que c'est lié à tout ça, à tout ce qu'on nous a forcé à faire. Et du coup, on voit bien que ce racisme, il est là depuis toujours, en fait. Depuis que nos parents sont arrivés, et à l'heure d'aujourd'hui, c'est pareil.
Donc moi, je suis d'origine kabyle. Et aujourd'hui, mes enfants m'en veulent énormément de ne pas leur avoir permis d'apprendre le kabyle. Parce que c'est quasiment impossible pour eux de s'exprimer avec leurs grands-parents, avec quand on retourne au pays. Et on se dit, en fait, on est pris dans un circuit où tout est machinal, tout est normal. Et on fait ce qu'on nous dit et on ne fait pas ce qu'on réfléchit, en fait.
Moi, je voulais rajouter que du coup, ce système-là nous a empêchés de nous aimer sous toutes nos facettes. Il y a beaucoup de choses qu'on a mis de côté, et notamment nos origines, alors que finalement, ça fait partie de nous. C'est ce qu'on est aujourd'hui et c'est ce qui fait de nous qu'on est des personnes avec beaucoup de culture, on va dire, parce qu'on a tout ce mélange de culture qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Et ce système-là nous a privés de certaines parts de nous-mêmes et d'acceptation, du coup, de tout ce qu'on est. Et aujourd'hui, ben, je pense que ce soit sur nous, sur la deuxième génération, troisième génération, ça va faire que s'amplifier. Et du coup, c'est comme s'il y a un côté de nous qui est dans l'ombre. Et on le voit petit à petit en grandissant, on va à la recherche de ces origines-là. Et comme tu dis, tes enfants aujourd'hui, ils te reprochent de ne pas avoir parlé de kabyle, parce que ça fait partie de leur identité. Et on est toujours en quête de cette identité-là. Et c'est comme si ça nous handicape un peu. Et je trouve ça vraiment dommage. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'en rendent même pas compte, qui ne prennent pas conscience que ça peut leur faire défaut dans leur vie.
À la base, on avait des rêves d'amour et de grandes choses. Les hématomes ont remarqué la trêve et nourri toutes mes pauses. J'ai propagé ma colère dans les couloirs d'un collège. J'ai partagé mes misères avec une pote dans le même piège. Arrosé à la tise, on a poussé de travers. Mais on avait la stratégie d'être solidaire dans la galère. On a menti, s'est fait passer pour des nantis, on a grandi. Et puis chacune a fait le tri, une triple dose de seum, bouquet de rose et de gun. C'est dans les rêves qu'on a braillé, qu'on a tué, qu'on a vécu sous le sun. Et seul et sous sur scène, plein d'idées malsaines. Je contrecarre mes comportements de gosse à la traîne. J'ai étouffé mes peurs, emmuré mon cœur. Ni les coups ni les caresses n'arriveront jusqu'à mon corps. Encore des heures à se taire, j'avais de pensées austères. Des terres après chaque chute, t'as la mémoire qui se perd. Et malgré les disputes, les écarts, les guéguerres, mais c'est toujours le même. Chaos et fer, barrière, putain ce qu'elle a mangé, ce qu'elle nous a caché. Cacher la vie pour une famille, c'est pas la panacée. On fera jamais assez, laissera jamais passer. Parce qu'il paraît pareil, parce qu'il paraît pareil. Parce qu'il paraît pareil.
Avec leur association Isar Attitude, ces mamans essaient de sauver les générations à venir. Pour toucher les plus jeunes, elles ont monté un programme d'aide aux devoirs.
En Algérie, ça commence mal.
On connaît nos enfants, on connaît leurs difficultés, on sait où ils vivent, on sait dans quelles conditions ils vivent. Donc, on avait envie, nous, de le porter, ce truc-là. Commencer très tôt à s'occuper d'eux.
On va faire un lien avec Zour, donc qui représente l'aide aux devoirs.
Oui, bonjour. Alors, je suis Zour Bekadour, je suis coordinatrice classe à Isar Attitude. Alors, je m'occupe de toute la partie, on va dire, scolarité. Alors, le classe, c'est quoi le classe? C'est un dispositif local d'accompagnement à la scolarité qui, on va dire, qui se résume en trois, en fait, vraiment en trois pôles. Le premier point, c'est accompagner les enfants en leur donnant des outils méthodologiques pour réussir leur scolarité. Le deuxième point, c'est accompagner aussi les parents pour être acteurs dans la scolarité des enfants, en leur donnant bien sûr aussi les outils pour qu'ils puissent intervenir, interagir soit avec les enfants, soit avec les institutions scolaires. Et le troisième pôle, qui est toute la partie ouverture culturelle vers l'extérieur. Et sur cette partie-là, on voit que les enfants des quartiers dits populaires manquent quand même assez considérablement de cette ouverture culturelle. Et du coup, le classe, en fait, ça permet justement aux enfants de réussir leur scolarité avec l'implication des parents et aussi de pouvoir s'intégrer dans la société via la culture, via le social, via l'ouverture, via tout ce qu'on peut proposer et qui permet à ces enfants-là d'aller voir autre chose que ce qui existe dans leur quartier d'origine.
Vous faites des sorties, par exemple?
Alors oui, bien sûr, on va les amener par exemple dans des théâtres, dans des musées, on va partir au cinéma, on va aller à la bibliothèque, on va aller se promener aussi pour pouvoir s'ouvrir à d'autres personnes, à d'autres cultures. En fait, c'est toute la partie ouverture socio-culturelle.
Mais sur le classe, moi je fais aide-devoir. Donc, c'est des bénévoles qui viennent nous aider pour notre devoir.
Alors, le mercredi.
Ah, les mercredis après-midi, il se passe des activités où on peut faire plusieurs choses. Donc, par exemple, on peut faire des ateliers cuisine, des activités, activités manuelles, etc.
Et est-ce que tu penses que les bénévoles qui sont là pour, pour t'aider dans tes devoirs servent à quelque chose, en fait ? Est-ce qu'ils t'apportent ?
Oui, ils m'aident beaucoup, en fait, parce que souvent, par exemple, j'ai des normes de leçons, de devoirs, parce que je suis quand même dans un niveau très élevé. Et donc, il m'arrive de ne pas comprendre les leçons, parce que c'est un rythme assez rapide, donc ça m'aide énormément, parce que les profs ne peuvent pas forcément s'occuper de moi avec le nombre d'élèves qu'on est.
Voilà, c'est juste pour vous présenter, c'est Noura qui est en seconde et qui est assez due aux classes depuis le mois d'octobre. Et la maman aussi, Farida, qui...
Voilà, donc nous on est avec l'association depuis le début d'année, donc ça fait pas trop longtemps. Et voilà, donc nous on a pu profiter, surtout pour le devoir. Après ça reste les mercredis... Voilà, donc j'ai deux enfants, il y en a un qui est en situation de handicap. Et j'ai Nour aussi, qu'elle profite beaucoup, surtout les aides-devoirs. Ça l'a fait avancer beaucoup dans sa scolarité. Et après, comme elle a dit, les activités. Donc, ils ont pas mal de sorties, théâtre, cinéma, des ateliers, cuisine, esthétique pour les filles de temps en temps. Voilà. Donc vraiment, il y a des repas partagés entre familles. Pour le mois de Ramadan aussi, il y a eu pas mal de choses. Franchement, donc il y a un petit groupe sur WhatsApp. Donc on voit tous les photos partagées, des vidéos, les avis des parents.
Dans la plaquette de présentation, on parle de bien-être. Est-ce que c'est une notion qui est importante, en fait?
Oui, dans le classe, c'est important le bien-être des élèves et aussi le bien-être des parents aussi. Et alors, bien sûr, on essaye de faire au maximum pour qu'il y ait des ateliers de bien-être, que ce soit pour les primaires ou que ce soit pour les secondaires. Alors, pour les primaires, on fait des ateliers sur ce qu'on appelle entre guillemets les vertus, ça veut dire les valeurs, sur le partage, sur la bienveillance, sur le respect de l'autre. Et pour les filles, on fait aussi pas mal d'activités sur comment être bien à l'intérieur de soi, mais aussi comment être bien à l'extérieur, sur la coiffure, le maquillage, mais aussi sur comment interagir entre les personnes, comment interagir entre eux. Et ça, bien sûr, c'est des valeurs de respect, de partage dans le cadre du classe.
Ouais, de confiance aussi, on parlait de confiance.
Et la confiance en soi, tout à fait.
Et d'estime de soi. Ouais.
Je rajouterais aussi comment se donner de l'amour. C'est surtout ça, en fait.
Oui.
Ils savent très bien nous le rendre. Oui. Tant que bénévole, franchement, c'est avec un grand plaisir que je vais les aider au devoir. Mmh. On ne s'arrête pas spécialement au devoir. Une fois qu'on a fini de devoir, on a des moments d'échange. On crée des liens avec les enfants. Et c'est très important, tant pour eux, parce que bon, ils se sentent à l'aise, ils font part de leurs craintes. Il y en a qui parlent, qui disent « ils n'y arrivent pas, ils y arrivent ». Ils savent très bien nous remercier. Quand ils ont des très bonnes notes, ils sont fiers de nous le dire. Donc c'est là qu'on se sent utile, qu'on se dit « mince, après tout, ben voilà, j'ai une bonne place ». Même qu'autant que bénévole, que deux fois par semaine. Et c'est super important de les voir arriver avec leur sourire, avec leur confiance et surtout avec une bonne évolution.
Et aussi dans le cadre du classe, bien sûr, le lien est fait aussi avec les établissements scolaires. Ça nous permet de suivre les élèves, de voir aussi leurs difficultés à l'intérieur de l'établissement scolaire. J'ai des rendez-vous avec les proviseurs, avec les CPE, j'ai des rendez-vous avec les assistantes sociales, avec les psychologues. Et tout ça, ça me permet bien sûr de faire un suivi, de faire un lien entre l'établissement scolaire, entre les parents et entre, bien sûr, les élèves qu'on suit dans le cadre du classe. Et ça, c'est important. C'est important, en fait, de faire ce lien-là, parce que parfois, les parents, ils sont un tout petit peu, on va dire, éloignés de l'établissement scolaire. Hein, et ça nous permet de les rapprocher et de redonner confiance aux parents dans les institutions scolaires.
Ouais, co-construire avec les parents.
C'est ça, tout à fait.
Ouais, bah nous, ça nous tient à cœur que, par exemple, sur la séance d'aide aux devoirs, il y a des parents.
Ouais. Par contre, nous, elle a déjà fait avec d'autres enfants plus jeunes qu'elle. Donc, quand elle finissait plus tôt, donc elle a pu le faire.
Trop voilà. Bien. Ouais. Peut-être les autres enfants ?
Non. Ouais. Oui, de temps en temps, quand je peux.
C'est ça aussi, l'interaction, bien sûr, entre les élèves, entre eux. Ça veut dire qu'ils s'entraident. C'est vraiment une émulsion assez collective. En fait, c'est un dispositif collectif d'entraide.
Et puis, il faut revenir sur l'historique des aides aux devoirs. En fait, ça a été monté par des parents, par des mamans de Isaratitude en 2020. C'est un groupe de mamans, elles ont dit, mais il faut qu'on accompagne nos enfants sur les devoirs. On va aller chercher des bénévoles du quartier ou extérieur du quartier, d'ailleurs. Petit, on est toujours à la recherche de bénévoles constamment. C'est placement de produits.
Appel.
Et donc c'est les mamans qui ont monté l'aide aux devoirs. Elles sont allées chercher des bénévoles extérieurs et les parents sont impliqués sur les séances d'aide aux devoirs. C'est-à-dire qu'ils viennent aider pour plein de choses. Ça peut être distribuer le goûter, ça peut être faire une dictée, faire une lecture. On a plus de parents sur les primaires.
Oui. Donc moi j'ai participé deux fois. Mais c'était plus pour une surveillance, en fait.
Mais ça, c'est voilà. Très important, parce que les enfants, ils ne se comportent pas pareil quand il y a les parents et quand il n'y a pas les parents. Du coup, la présence des parents, elle est fondamentale pour l'encadrement, mais aussi pour que les enfants, en fait, ils voient que leurs parents sont derrière eux, qu'ils sont là pour soutenir. Et ça change beaucoup de choses. Et c'est ce qui tenait à cœur aux fondatrices de l'association. Et elles nous ont transmis ça, et elles transmettent encore ça, de se dire, nous, on va pas faire à la place des parents. C'est-à-dire qu'on fera jamais à la place des parents. Un parent, il veut pas être là, et ben, à un moment donné, nous, on pourra pas prendre son enfant. Si le parent, il est impliqué, on accompagnera le parent. Mais nous, on n'est pas là pour faire à la place des gens. Et en plus, ça sert pas à grand-chose, parce qu'un parent absent, bah, l'enfant, à un moment donné, il va lâcher. Donc on est constamment là-dedans de rappeler qu'on fait avec les parents. Et du coup, ça prend du temps à des moments. On fait avec les habitants. Tous les projets sont pensés avec les habitants ou avec les enfants ou avec les jeunes. Et ça prend plus de temps, mais c'est chouette.
Ouais, j'ai l'impression que le bien-être passe aussi par la communauté culturelle. Je voulais savoir ce qu'on pourrait faire pour que le mot communauté arrête de faire peur, en fait. Parce que je pense que c'est positif, quoi.
Déjà d'arrêter d'ostraciser, c'est-à-dire qu'en gros, de base, une communauté, c'est positif parce qu'elle fait en sorte de valoriser et de faire découvrir des cultures différentes. Et aujourd'hui, quand on est communautaire, en gros, c'est-à-dire on met des individus à part entière qui font partie de l'ethnie en disant, voilà, vu que vous êtes une ethnie à part, de l'autre côté de la Méditerranée, quand il s'agit d'une communauté liée à l'Europe, on n'a pas ce genre de discours. Par contre, quand on passe de l'autre côté de la Méditerranée, on a tendance à dire, ben oui, vu que vous, culturellement, vous n'avez pas, sachant qu'il ne faut pas oublier que les civilisations ont voyagé, ont fait découvrir, du coup, si ça imprégné de eux-mêmes, de cultures qui sont allées coloniser, puisqu'on va faire un petit cours d'histoire, très rapidement. Donc forcément, quand ils sont partis, ils se sont appropriés une partie des histoires des gens qui ont colonisé, et les gens qui ont été colonisés, eux aussi, se sont appropriés. Donc en fait, ces maisons ethniques, ils n'existent pas depuis que les gens sont venus en France, ils existent depuis des siècles et des siècles. Donc ce discours de dire, c'est depuis qu'ils sont venus que la France a changé de ça, il ne faut pas oublier que les pays du Maghreb, ils étaient des départements français. Donc ils apprennent la langue française. Aujourd'hui, les parents n'ont plus la faculté, en gros, par rapport au système sociétal aujourd'hui, de transmettre la culture à travers la langue. Ça. Mais ça, c'est arrivé depuis les colonisations. C'est-à-dire que déjà, de base, quand ils sont arrivés, eux-mêmes se sont un peu éloignés de leur langue de base. De même, parce que de base, ils leur interdisaient d'aller faire l'école de leur langue maternelle. Donc forcément, quand ils arrivent, les premières générations ici d'immigration qui sont nées en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie, déjà, ne parlaient plus cette langue dans leur pays natal. Donc forcément, quand ils sont arrivés, ils n'ont fait que transmettre la langue qu'ils avaient apprise dans les écoles françaises. Donc ça existe depuis des siècles et ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc éviter d'ostraciser, c'est lié à l'histoire si on en arrivait là.
Oui, c'est après, si on revient sur le terme littéraire de communauté, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'on a en commun. Et qu'est-ce qu'on a en commun? On a des valeurs en commun qu'il faut vraiment mettre en évidence. Et les valeurs, c'est les valeurs humaines et on est tous des humains. qu'importe notre couleur, qu'importe nos origines, on a tous les mêmes valeurs, hein, qui sont les valeurs de partage, les valeurs d'amour. Et ça, on l'oublie, en fait. On l'oublie beaucoup. Et du coup, on va essayer de créer des amalgames sur le mot communauté, alors qu'on est tous une seule communauté et une communauté universelle qui partageons la même chose.
Ouais, puis nous, on a une communauté ouverte, hein, nous, que qui veut venir, vient. Je pense les communautés...
Placement de
les...
produits, encore.
Non, j'étais pas là-dedans. Non. Mais par contre, les communautés les plus fermées, c'est les communautés des riches, des grands riches. C'est là où il faut renverser les choses. Nous, on vit ensemble, plus ou moins, avec des difficultés, mais on vit ensemble. Là où les gens, ils sont fermés, ils sont entre eux... C'est pas nous.
Parfois, quand on parle de communauté, c'est de manière négative, mais il faut pas oublier que ce repli sur soi ou sur sa propre communauté, c'est quand on se sent pas accepté par l'autre. Donc, dès qu'on arrive en nous pointant du doigt par rapport à où on vit, nos origines, ou plein d'autres choses, ou juste ne serait-ce notre sexe, quoi. Si on est pointé du doigt, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller vers des gens qui nous ressemblent, parce qu'on se sent accepté que par ces personnes-là. Donc, faut pas oublier que le mot communauté, parfois, on nous l'impose aussi, quoi. On essaye de s'ouvrir vers l'autre et on se prend quelque part un mur, et ben on revient vers ce qu'on connaît. Je voulais rajouter par rapport à communauté, ce que disent mes collègues, c'est aussi très positif parce que c'est grâce à ça qu'il y a aujourd'hui en France toute cette richesse. C'est au travers de toutes ces communautés qui sont présentes en France qui apportent leur savoir-faire, leur façon d'être, leur savoir-être, plein de choses, et qui fait qu'aujourd'hui, la France, elle est multiculturelle et qu'elle est forte dans ce sens-là. C'est qu'elle a beaucoup de choses à apporter et à découvrir et à faire découvrir aussi aux autres dans les autres pays.